te dis que c'est important.
C'est faux.
Mais non, mais bien sûr que si, les gens adorent les brefs.
Les brefs, c'est de la non-information.
Pas du tout de la non-information, il en faudrait plus.
Non, mais attends, ça tombe bien que vous disputiez.
Ah bon?
Oui, parce qu'on reçoit Marion Gamme.
Et alors?
Bah, c'est la star de Scène de Ménage, le couple de grands-parents.
Ah, bah super.
Voilà, et donc je me disais que peut-être, comme vous, vous êtes un peu vieux couple.
Pardon, on n'est pas vieux.
Non, on n'est pas un couple surtout.
Oui, c'est ce que je voulais dire.
Non, mais on s'en fout, on s'en fout. Allez, on essaie, je vous ai écrit un épisode. On y va, allez, générique, et vous lisez le texte. Allez-y, on y va.
C'est sûr.
Allez.
Ma biquette.
Oui, mon trognon.
On a reçu les journaux.
Ah oui, j'ai pris la partie politique et société, je t'ai laissé le sport et les brèves.
Très bien, excellent. Je me mets dans le canapé pour écouter les grosses têtes.
Dis donc, ça lui fait quel âge à Laurent Ruquier?
102, je crois.
Ah bah, heureusement qu'on a arrêté la radio. Hein.
Ah bon? Parce qu'on faisait de la radio?
Oh, ça va pas mieux ton Alzheimer. Hein.
On faisait de la radio.
Enfin, moi j'en faisais, toi t'étais sur Twitter pendant l'émission.
Ah bon? Dis, on a reçu les journaux.
Oh, putain, c'est génial, hein. Non. Formidable, là on s'y croirait.
Laisse tomber, c'est nul.
Bah, de toute façon, les gens n'y croiront pas, on ne se dispute jamais.
Voilà, allez, va chercher des cafés.
Bon, okay.
Bon, Alex, on en était où?
Mais sur cette histoire de blague, je te dis qu'il en faudrait beaucoup plus dans l'émission. Les gens adorent ça.
Allez, désolé.
Sucre!
Bonjour la France Inter, vous écoutez la start-up de la radio publique, là où la flanelle de l'actualité est déchirée par les ciseaux de la blague.
Oh là là, la beauté.
Oh là là. Les verts.
Ça bosse, ça bosse.
Ah, ça c'est un
alors
week-end
là
pour préparer ça, donc forcément lundi, bam.
Alors là. Bon, l'émission est faite, je crois. Tout à fait, que dire de plus?
Lancez le disque.
Que les verts ont fait une belle percée aux élections en Allemagne, en Belgique et au Luxembourg. Trois pays frontaliers de la France qui, elle, en est où avec Europe Écologie Les Verts?
Il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Ah, bon.
Depuis que le roi du Maroc s'est séparé de la princesse Lala Salma, Mohamed VI est en mode lâcher prise sur Instagram, sapé comme jamais.
J'ai toujours rêvé d'avoir un titre de noblesse, c'est tellement chic.
Mais vous en avez un, là. Vous êtes la reine d'Ibiza, majesté.
Doubler des films, c'est un métier d'acteur avec un savoir-faire particulier. Cette semaine sort un long métrage d'animation intitulé Yeti et compagnie, qui a des fins notamment promotionnelles et notamment doublé par des chanteurs comme Amel Bent ou Julien Doré.
Moi, ce que je veux surtout, c'est une voix. Une voix qui s'adapte à l'univers végétal et sensuel que j'ai écrit. Tu vois, avec des graves qui rappellent les racines de la terre et puis des aiguilles. Un peu comme l'acidité du feuillage, voilà.
Bien sûr.
Prenez un exemple.
Mais bien sûr. Lui, il double les voitures sur sa trottinette électrique. Bonjour Alex Vizorek.
Bonjour Charline Vanhoenacker. J'en ai pas fait ce week-end, je le sentais pas. Un week-end sur deux. Je vous ai préparé une belle équipe. Autour de la table, à 17h20, Boileau disait « Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement. » Eh bien, pour Hippolyte Girardot, ce qui s'énonce clairement ne peut être bien conçu. Comment allez-vous, Girardot?
Peut-être que j'ai pas Boileau.
Éventuellement. Ça, c'était pour Juliette en général.
Débrouille-toi maintenant. Ça va être Frankenstein Smoothie.
Voilà, clair, mais on finit toujours par comprendre.
Voilà.
À 17h30, il est allé dans un endroit où rien que sa présence annulait la promesse de l'événement. C'est impossible, un salon du bien-être avec Guillaume Meurice dedans.
Et pourtant, bonjour à tous, tu es au salon Vivez Nature, ça s'appelle. Et j'ai même parlé de karma, mais pas que.
Pas un voyage karmique, pas un tourisme karmique.
Je préfère préciser pour les amateurs de tourisme karmique, il n'y aura pas.
Venez écouter cette chronique. Et à 17h40, celle qui profite de l'été indien en jouant la Calamity Jane dans les saloons de cow-boys, c'est Juliette Arnaud. Bonjour.
Bonjour.
De quoi on va parler?
Je vais vous emmener dans la cité interdite.
Oh. Ouais. Et voici celle qui sera la voix de notre start-up jusqu'à 18h. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes...
Écoutez, je sais pas, je dois dire mon nom? Oui, mais alors je veux bien dire mon nom, mais pas mon âge.
Mon vrai nom,
oui,
c'est Marion Gamme.
Oui, je me disais aussi.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
Bienvenue Marion Gamme.
Je suis très intimidée.
Intimidée.
Par Hippolyte.
Marion Gamme, on l'a dit, on vous connaît notamment pour Scène de Ménage, pour Plus belle la vie, vous êtes très populaire et vous jouez aussi au théâtre, dans une pièce qui s'appelle C'est pourtant simple, de Sophie Brachet, dans une mise en scène de Luc Hamet.
Ouais.
Vous jouez aux côtés de Geneviève Gilles, de Virginie Stevenot, Emmanuel Vieilly et Elisa Azé. C'est au théâtre Edgar où Alex Vizorek est allé vous voir.
Et qui c'est allé au théâtre? C'est moi.
C'est vous.
Mais bien sûr, je suis venu vous voir. Alors, je vais essayer de raconter le début de l'histoire. l'histoire, vous m'arrêtez si c'est pas clair.
C'est un peu compliqué, c'est vrai.
Bah oui, c'est ça. Donc on a un auteur de théâtre qui rentre chez lui, il y a un cambriolage. Ça l'arrange pas parce qu'il attendait une jeune fille qui en fait est une fille qui ne connaît pas mais qui est la sienne. Donc il faut que sa femme reste loin de là.
Loin de l'histoire.
Loin de l'histoire. Sa femme qui elle veut rentrer parce qu'elle a donné rendez-vous à quelqu'un pour s'occuper de sa maman qu'elle veut mettre dans un EHPAD mais que sa maman ne veut pas du tout. Et la concierge se mêle de tout ça. Tout le monde se retrouve dans cet appartement et puis c'est le boxon et puis ça part. Et puis ce que j'ai trouvé rigolo c'est que il n'y a pas vraiment un personnage central. Il arrive des problèmes à tout le monde.
Oui, oui.
C'est ça qui vous a plu aussi?
Ah, mais c'est ce qui m'a plu aussi, que c'était une collégiale.
Exactement.
Parce que moi, toute seule sur le plateau, avec soi-disant des gens autour, je trouve que c'est pas la fête. Au théâtre, il faut que tout le monde ait sa part de bonheur. Et là, c'est un gâteau qui.
Il y a à manger pour tout le monde.
Il y a à manger pour tout le monde, monsieur, là-dedans.
comme c'était noté dans la petite plus-value pour la presse, mais moi, je n'ai pas remarqué, parce que ça me semblait assez normal, mais effectivement, sur les 5 rôles, il y a 4 rôles de femmes, donc il y a à manger pour 4 rôles de femmes. Ça m'a semblé après surprenant en lisant, mais sur cette.
L'auteur est une femme.
Et l'autre, peut-être.
Donc, il y a peut-être un lien.
Il y a peut-être un lien, mais non, mais est-ce que vraiment, parce qu'on imagine toujours le boulevard, Jacqueline Maillan, tout ça, est-ce que vraiment il y avait quelques grands rôles de femmes et au final, le reste était trusté par les hommes?
C'est vrai.
Ouais.
Alors que là, c'est la fête des femmes et on se défend et. C'est un vrai bonheur parce que c'est très, 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 très drôle. C'est pétri d'humour tout le temps et de situations cocasses. Et voilà,
et
c'est le bonheur.
Votre rôle, c'est Simone Vanier. Et vous êtes une ancienne comédienne.
Oui.
Qui a encore envie un peu de revenir, mais les autres lui déconseillent.
Non, c'est ça, voilà. Elle a eu son heure de gloire. Donc, elle ne se rend pas compte qu'il arrive à un âge ou un moment dans sa vie où il faut un peu baisser les bras et laisser la place aux autres.
Et à quel moment on s'en rend compte, Marion Gabbe?
Ah, si, moi, c'est mon obsession. Ah, non, c'est mon obsession. Mais bon. Et là, c'est une ancienne grande actrice. Elle a écumé tous les grands rôles. Donc, voilà. Donc, elle veut pas baisser les bras et elle emmerde tout le monde avec ça, si je peux dire.
C'est clair. Voilà. Et elle a un petit côté, quand tout se passe mal autour d'elle, ça l'amuse un petit peu.
Ah ben voilà, elle en profite, elle est un peu sadique. Elle est...
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un petit côté de Tati Daniel?
Tout à fait, mais sous une bonne femme qui est planquée derrière la joliesse, le charme, enfin elle a l'air comme ça.
Oui, oui,
et en fait,
on a envie d'aimer, mais oui, c'est ça.
Et c'est une vraie saloperie en profondeur.
Ça vous plaît de jouer ce genre de, justement,
c'est
double couche?
C'est royal, c'est... Comment dirais-je, c'est impérial.
Alors, vous l'avez souligné, c'est une femme qui a écrit la pièce et il y a beaucoup de rôles de femmes. Je lisais dans votre biographie, vous avez joué aux côtés, bien sûr, il y a Micheline Dax, mais aussi Paul Meurice, Michel Galabru, Michel Serrault, Jean Carmé, vous avez croisé Blié et bien d'autres.
Tous les plus grands.
Voilà, exactement. Et puis, vous expliquez que voilà, vous avez eu un début de carrière foudroyant et puis vous avez fait 1000 choses, et notamment votre vie de femme avec des enfants, etc. Vous pensez que ça a pu freiner votre carrière et qu'il y a peut-être moins de l'équivalent de Jean Carmé ou de Galabru femme, parce que parfois la vie fait
non,
que...
Non, je crois qu'il y a une histoire d'âge quelque part. Parce que quand vous êtes jeune première, vous utilisez cet emploi pendant pas mal de temps, le charme, etc. Et puis après, il y a un passage un petit peu délicat. Les femmes d'un certain âge, elles n'ont pas tellement leur place au théâtre. Et après, il y a les vieilles dames qui répliquent. Alors là, d'accord. Tati Daniel, les méchantes, les perverses, etc.
Vous êtes tranquille pour les 15 prochaines années.
Voilà. c'est ce que je souhaite. Enfin, je croise les doigts pour que ça continue comme ça.
Il y a une volonté de l'auteur qui dit qu'elle est tombée dans la marmite au théâtre ce soir. C'est vraiment un héritage de ça.
Ah, complètement. La pièce, elle s'est complètement inspirée de tout ce qu'on a pu vivre, nous, pendant des années.
Et dans laquelle vous avez joué beaucoup.
Ah, moi, j'ai eu toutes les chances du monde. J'ai toujours travaillé toute ma vie auprès des grands de ce monde, quoi. Je veux dire.
C'est eux qui ont travaillé auprès de vous.
Il est gentil. Il est très sympathique. Vous me donnerez son téléphone.
Je suis sur un dos.
Non, mais c'est vrai. J'ai travaillé avec les plus grands. Enfin, je veux dire, Paul Meurice, Michel Serrault, Galabru. Enfin, je ne peux pas vous dire. J'ai tout le temps été à côté des grands de ce monde. Donc, avec mes petites jambes, il fallait être à la hauteur, quoi. Donc,
Vous l'êtes sur scène. Ah. On sent quand même que ça roule.
Ça s'appelle C'est pourtant simple, de Sophie Brachet.
Ce qui n'est pas le cas, hein, le pitch est compliqué.
C'est ça qui est bien. C'est au théâtre Edgar. C'est Marion Gamme qui est avec nous, que vous connaissez peut-être sous le nom de Huguette.
Ah, bah oui, alors ça va. Oui, voilà. C'est mon surnom.
Back home.
Marion Gamme, vous pouvez chanter Satisfaction.
La sixième Rolling Stone.
Pardez-vous. Il est 17h20 sur France Inter et vous écoutez Par Jupiter. C'est Marion Gamme qui nous accompagne. C'est notamment Huguette dans Scène de ménage. Vous jouez dans Plus belle la vie aussi.
Oh, très peu, j'ai fait un cours par ça.
Ah, d'accord.
Ah non, parce que les allers-retours Paris-Marseille, ouais, ça me...
C'est un peu compliqué.
Ça me dérangeait un peu dans mes programmes.
Et en ce moment, au théâtre Edgar. Alex Vizorek, pour entourer notre invité.
Vous n'allez pas me croire, il y a Pauline Girardot.
Oh, mais non. Vache,
il y a Guillaume Meurice.
Ah oui, c'est vrai.
Il y a Juliette Arnaud.
Ah, ouais. Bien sûr. Et c'est le point sur l'actualité.
Bien sûr que oui.
J'essaie de faire les choses de manière professionnelle.
Le journal de presque 17h17.
Ce qui se joue en ce moment est essentiel pour l'équilibre de l'avenir de notre pays, de l'Europe et peut-être même du monde.
C'est moi qui parle François Bayrou autour de la table. Et on commence par les titres.
L'Aude a été touchée par de violentes intempéries et de nombreux villages sont sous l'eau.
Eh ben voilà, au lieu de toujours critiquer Macron, pour une fois, il avait raison, ça ruisselle, ça ruisselle.
Patrick Sébastien a été viré de France Télévisions.
Ah, mais au point, ils en sont au gouvernement, il pourrait le nommer ministre de la Culture l'an prochain.
Ouais. Ah, oui,
ah bah oui, c'est, vous voyez que c'est un journal informatif, il y a des gens qui apprennent des choses.
Voilà. Ah bah mince, alors.
Ce sera pas prolongé l'an prochain, Patrick Sébastien.
Ah bon. Et bah, des brèves.
Et des brèves, oui, catastrophe pour vous. Des trompes de brèves vont s'abattre sur ce studio.
Vous pouvez reprendre la tranche, hein, Marion, si vous voulez. C'est un projet d'émission.
Non, mais c'est bizarre quand même.
Votre numéro de contorsionniste, il va passer où du coup, si c'est pas dans le plus grand cabaret.
Allez,
on commence par Brigitte Macron.
Oui, elle aurait quitté l'Élysée quelques jours pour s'isoler au Touquet après une grosse dispute au sujet de la gestion de l'exécutif.
Eh oui, le plan retraite d'Emmanuel Macron fait donc peu contre l'isolement des personnes âgées.
Non. Le domicile de François de Rugy à Orvault, dans la banlieue de Nantes, a subi une tentative de cambriolage.
Oui, François de Rugy peut être rassuré, les malfaiteurs n'ont pas touché à sa collection de vestes réversibles.
Passons à droite, Laurent Wauquiez s'est trompé de destinataire en envoyant un SMS. Il l'a envoyé son plan et ses éléments de langage à l'un de ses adversaires politiques.
Oui, Wauquiez, c'est le genre de mec qui doit tromper sa femme en donnant rendez-vous à sa maîtresse chez sa belle-mère.
Et le même week-end, le poulain de Laurent Wauquiez chez les jeunes LR, Oran Réanian a été enregistré en train de discuter de la meilleure façon de frauder à l'élection pour la présidence des jeunes Les Républicains.
Je sais pas à quoi on voit le mieux, que c'est vraiment le poulain de Laurent Wauquiez, au fait qu'il essaye de s'enregistrer ou qu'il se fasse gauler en se faisant enregistrer.
Et le même week-end.
Le même week-end, les élections du président à la Fédération LR des Alpes-Maritimes, théâtre de tension.
Oui, Éric Ciotti, qui était seul en lice, a été élu avec 88% des suffrages, mais des proches de Christian Estrosi dénonce de multiples irrégularités et un taux de participation suspect.
En résumé, des élections régionales internes au parti, avec un seul candidat en lice, et les Républicains ont réussi à faire émerger un scandale de fraude électorale.
La droite a du talent.
La droite a du talent. Et enfin, le même week-end, une phrase ne nous est pas passée inaperçue. C'était les Terriens du dimanche, c'était Nadine Morano.
S'agissant de France Inter, cette radio où je ne suis jamais invitée, faut le dire quand même, jamais. Alors, il préfère avoir, madame Charline, je sais plus comment.
Charline, je sais plus comment. Dis donc, Charline, c'est pas gentil, ça.
Mais moi, j'aimerais bien être amie avec Nadine. Comme ça, j'aurais une très bonne amie blacklistée.
Allez, à gauche, un peu quand même.
Selon Emmanuel Morel, Hollande pourrait être candidat en 2022.
Non, selon François Morel.
Ah non, non, c'est Emmanuel Morel.
Ça ressemblait tellement à une blague. Ouais, je me suis dit, peut-être non.
People à présent, dans Laetitia, la vraie histoire. C'est un livre dont des extraits ont été publiés par Closer. On apprend que Laetitia a été chargée de séparer Laura Smet, qui avait 13 ans, de Doc Gynéco, dont elle s'était entichée alors qu'il en avait 22.
Ah bah, il n'était pas que gynéco, apparemment, il était plutôt bon pédiatre aussi.
Télé, donc Marion Gamme, cette information, vous êtes sous le choc. Patrick Sébastien ne sera pas reconduit sur France Télévisions.
Ah non, là, je m'en remets pas. Bah, enfin,
dure nouvelle hein, pour tout le secteur,
oui,
les chaînes en or et les gourmettes.
Un pilier de la chaîne.
C'est
fou, hein. C'est quand même lui qui présente le plus grand cabaret du monde.
Et c'est un dernier tour de magie, c'est lui qui disparaît.
Ouais, c'est vrai. Des brèves.
Des brèves en Belgique, attention. Un mécanicien de l'armée a anéanti un F-16 en tirant par mégarde au canon depuis un autre F-16. Ouais. Il n'y a pas que Laurent Wauquiez qui fait de l'auto-sabotage.
Ouais, la dernière.
Et la dernière, qui sera la transition avec le premier sujet. Maroc, il porte plainte contre ses 3 femmes car elles lui refusaient une 4e. Hein. Quant à Gilles, il n'y a pas de plaisir.
Le roi du Maroc, on va en parler bientôt, Marion Gamme, mais on va d'abord aborder cet autre sujet politique. Ce sont les partis écologistes allemands
Ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait ?
Alors je vous explique. Les partis écolos allemands, belges et luxembourgeois ont progressé lors des élections organisées hier dans ces trois pays. Ouais. Alors ils ont fait 17,5% en Bavière, gagné 3 députés au Parlement luxembourgeois et réalisé un score de 17% au municipal à Bruxelles. Et au milieu, géographiquement vous situez, voilà, un village de Gaulois réfractaires résiste encore à l'écologie politique.
Et mes convictions, j'en fais quoi, Fabienne? J'ai une conscience politique quand même, vous êtes marrant.
Mais vous savez bien que votre liste n'a aucune chance. Bah, ils vont voter écolo.
Écolo, Denis?
Bah, oui, je vais voter écolo. Excusez-moi, mais à un moment, il y a urgence. Hein. La fonte des glaces, Fukushima, Tchernobyl, tout ça, non, ça vous dit rien?
Si, mais...
Vous verrez, quand vous aurez 5 bras, vous me remercierez d'avoir voté écolo.
Bruno Salomon dans Fais pas ci, fais pas ça, la série de France 2. Voilà, c'est bon score, surtout comparé aux performances dernièrement des Verts en France. Alors déjà, on va faire un test, Marion Gamme. Est-ce que vous êtes capable de citer des gens de Europe Écologie Les Verts? Qui serait président? Qui serait...
Ouais, c'est compliqué.
C'est pas simple.
Voilà. Voilà, le constat est fait. Je pense qu'on peut passer au sujet 2.
Et si on vous dit écologie politique, le premier nom qui vous vient? Hulot, quand même.
Ah oui, mais...
Déjà, on vous a soufflé.
Donc, c'est difficile d'en parler, quand même.
C'est pas évident. Alors, c'est vrai que tous les partis en France ont inclus l'environnement. Ils en parlent, traite la question, je mets traite entre guillemets. Ça ne se voit pas à la radio, mais je mets des guillemets avec les doigts comme ça. Est-ce qu'on a encore besoin d'un parti écolo, selon vous, quand tous les autres partis s'emparent du sujet? Est-ce que vous regardez ça avec plus ou moins d'intérêt?
Non. On a ses propres convictions par rapport à l'écologie, et puis ils peuvent se triturer autour de nous, ils font pas grand chose, quoi. C'est tout, c'est ça, c'est pas très efficace.
Et quand vous votez pour un candidat, que ce soit d'ailleurs, c'est pas les municipales, si c'est municipal en France, chez nous c'est les communales, ou à la présidentielle, est-ce que vous regardez un petit peu cette partie-là de son programme, si l'écologie est mise en avant?
Si les blonds aux yeux bleus, je vote pour lui.
Voilà, c'est important, une analyse pointue.
On rappelle que vous avez soutenu Nicolas Dupont-Aignan à la dernière présidentielle.
Il est très joli garçon.
Marion Gamme, vous jouez dans des feuilletons quotidiens très populaires, notamment Scènes de ménage, qui essayent de coller à la société, à la vie quotidienne. Est-ce que c'est un thème qui est récurrent, par exemple, dans Scènes de ménage?
Parce que c'est en tous les soirs à la télé. Enfin, nous, en tout cas, nous, on est très, comment dirais-je, ciblés, un vieux couple qui s'aime et qui se quittera pas.
Mais qui a des enfants.
Oui, bien sûr. Mais je veux dire, on n'est pas dans le monde extérieur. Mm-hmm. On est chez nous, on a des pantoufles, si vous voulez.
Et dans la série en général, comme il y a plusieurs générations qui sont représentées, est-ce que dans le reste de la série, il y a les générations, cette problématique-là, généralement, les feuilletons, ils essayent de coller un peu aux évolutions de la société?
Pas tellement, sur le plan de la politique, pas tellement dans Scènes de ménage.
Même pas de l'environnement ou du climat? Voilà,
c'est pour ça qu'on est foutus.
Dire au scénariste.
Mais dans Plus belle la vie, oui.
Ah, peut-être dans Plus belle la vie, mais comme je ne suis plus depuis très longtemps, je ne suis pas du tout cette affaire-là. Mais bon, je dis, Scènes de ménage, c'est les couples assis sur un canapé, et voilà.
Ah bah voilà.
Chacun avec leur potentiel de fonctionnement de couple.
Au moins, voilà. S'ils sont assis sur un canapé, l'empreinte écologique est très faible.
Est très faible. C'est bon, on sort pas. On est bloqué sur notre canapé.
C'est un canapé en cuir ou pas?
Oh non, d'accord. Un vieux canapé pourrave.
C'est vegan alors, d'accord.
Vous êtes pauvres, monsieur, nous on est vieux et pauvres.
Vous regardez Netflix et vous vous faites livrer des repas ou pas? Non. Vous restez sur le canapé sans bouger.
L'avènement des partis écologistes, c'est aussi dû au fait où on en parle énormément aujourd'hui. Les réseaux sociaux, on parle énormément. Je ne sais pas si vous avez constaté ça, mais depuis peut-être 4 ou 5 ans, vraiment, tous les gens qui avant disaient bon, non, ça va aller, en parlent. Donc, vous-même, vous avez été touché, vous avez souvent ces discussions-là avec votre entourage.
Moi, mon entourage, c'est un Yorkshire et puis. Un spitz, donc je leur parle pas tellement politique, ni de la vie sociale. Je leur fais des câlins.
C'est des croquettes bio.
Ils me regardent comme si j'étais Elisabeth Taylor. Et donc, ils m'amènent du bonheur. Et puis, ce qui se passe autour de moi, oui, bien sûr, j'écoute, mais je ne réagis pas parce que je suis... Voilà.
Et quand vous voyez, par exemple, un documentaire sur le fait que la Terre va pas bien, est-ce que vous fermez parce que ça vous angoisse?
Ah non,
ou est-ce que justement vous dites, il faut que je sache pourquoi?
Je veux savoir pourquoi, je vais au bout de l'idée. Non, c'est passionnant.
Ouais. Vous affrontez la question. Il est 17h30 quasiment sur France Inter. Marion Gamme, sachez que c'est le moment
d'Hippolyte Girard.
Raccrochez-vous, c'est spécial, hein, parce que là, c'est pas comme les documentaires
écologiques. Moi, je voulais m'en aller, là, parce que c'est l'heure du goûter. Oui. Oh,
restez deux minutes encore.
On a des
pas
choses
deux
à
minutes, dire. Pas exactement, 6 minutes 57.
Ah, quand même.
Non, parce que je voulais vous dire quand même, même si vous vous permettez d'écrire une autobiographie qui s'intitule « C'est quoi votre nom déjà ?», même si dans la rue, les gens vous appellent par votre prénom de scène, Huguette, vous êtes extrêmement réel. Voilà.
Merci.
Votre célébrité s'appuie sur une véritable personne et n'est pas liée à des milliers de followers anonymes sur un réseau comme Instagram. Car si vous n'en étiez, vous n'existeriez pas. Ben oui, c'est ça le futur, c'est de ne pas exister. Depuis quelques années maintenant, il existe des personnalités extrêmement suivies sur ce genre de réseau qui tout simplement n'existent pas. Elles agissent comme des êtres humains, elles communiquent comme des êtres humains, certes, mais n'en sont que le Canada Dry. Vous ne connaissez pas vraiment Noun Nouri, Michaela Souza ou Choudougram, bien sûr.
Oui.
Ce sont des top modèles virtuels, des créatures aussi réalistes que possible sur les photos qui ne sont en fait que des Frankenstein sexy créés par des geeks obsessionnels. Elles n'existent pas en chair et en os, mais font comme si, et leurs fans font comme si aussi. Et les marques de luxe, pas iconnes, aussi font comme si. Et ça marche, évidemment. Ces avatars numériques deviennent populaires au point de créer des tendances, c'est-à-dire des modes, c'est-à-dire des façons de s'habiller, de se comporter et même de penser. C'est l'idéal absolu de n'importe quelle politique de lavage de cerveau. Créer un leader d'opinion pour le moment seulement, entièrement contrôlable. C'est la figure parfaite. Aucune aspérité, aucune origine ethnique bien définie, aucune espèce de vieillissement possible et bien sûr aucun rappel de nos corps en perpétuelle décomposition, réalité terrifiante que l'industrie de la mode veut nous faire oublier en échange de parures toujours renouvelées. Putain, la phrase.
Tu parles bien.
La phrase est énorme, Hippolyte. Oui, moi-même en la lisant, je me demandais ce que. Bon.
Disponible en replay, hein, bien évidemment.
Je te remercie, Guillaume. On y continue. C'est donc l'idée d'un monde éternel, un monde lisse où tout sent le délicieux parfum du pognon, du vrai pognon, celui qui ne ruisselle pas. C'est le symptôme d'un monde où tout n'est que représentation, où la représentation elle-même peut remplacer la réalité. Ça me fait penser au smoothie. Vous savez ce que c'est le smoothie?
Oui.
C'est ce truc à la mode qui consiste à faire de fruits solides, des bouillies onctueuses. Alors on sent les fruits, on les reconnaît parfois, oui, mais l'idée c'est que c'est frais et que c'est doux, comme la cuillère de compote qu'on offre à un bébé. Boire un smoothie, c'est sucer son pouce. Pas vraiment de goût, mais bon, c'est doux. Le smoothie, c'est la représentation, facile, consensuelle, amorphe, des fruits si disparates et au goût si différent. Alors là, je sens qu'il y a des spécialistes du pouce qu'on suce et qui s'échangent des clins d'œil. Je parle de Guillaume et Julien.
Non, mais ça va trop loin, là.
Oui,
les trottinettes, les smoothies, c'est quoi la semaine prochaine?
Ben oui, ça se tient, ça se tient. Et le succès d'un avatar de femme aux yeux de Bambi et au corps de bouteille de Coca-Cola, c'est l'idéal d'une société smoothie où tout est mixé, tout est passé au blender, au mélangeur. Où tout se vaudrait. Par exemple, une scène de ménage avec la moustache de Gérard Hernandez ou pas. Une chronique incompréhensible ou pas. Un gouvernement qui existerait ou pas.
Bravo. Merci, voilà. Hippolyte Girardot.
Merci.
Et oh, vous avez super. Touché un point intéressant
sensible,
avec le smoothie. Hein.
Ah, ouais, j'ai senti que...
On l'avait jamais vu comme ça,
tous concernés, là.
C'est vrai.
Il faut toujours trouver un truc où tout le monde se sent concerné.
C'est,
voilà.
Vrai. Ouais, c'est réussi. Hippolyte Girardot
avec
Guillaume
nous. Ça a été touché.
Marion Gamme aussi, elle est avec nous. Elle est au Théâtre Edgar dans C'est pourtant simple. Et si vous nous rejoignez, vous avez de la chance. Vous allez pouvoir écouter Mélissa Lavo.
Waouh.
Cousin, papa, cousin là, cousin. Cousin, papa, cousin là, cousin, la panty ma chumanga. Cousin, la panty ma chumbo. Cousin, la panty ma chumeltan. Cousin, papa, cousin là, cousin. Cousin, le cousin là. Cousin de coton
Mélissa, arrêtez de discuter, vous deux.
On parle écologie.
Pauline Girardot et Alex sont en plein débat sur les verts, c'était le sujet 1. Oui. Qu'est-ce qui fait que les verts en France, ça ne prend pas, et qu'en Belgique et en Allemagne,
on
ça
était
prend.
En train de trouver la solution, vous avez coupé, vous avez coupé.
Quelle est la solution que nos auditeurs en profitent?
On était en train.
Non, on était en train de la trouver.
Ah, j'ai entendu les toilettes sèches.
Elle va se recycler.
Dès qu'on a la solution, chers auditeurs, on vous tient au courant. En tout cas, c'est Marion Gamme, notre invitée. Elle est au théâtre dans C'est pourtant simple, une pièce de Sophie Brachet qui se joue au théâtre Edgar jusqu'au minimum au mois de janvier.
Voilà,
minimum.
On verra.
Marion Gamme, qu'on connaît aussi comme étant Huguette dans Scène de ménage sur M6. Et à côté de vous, Huguette Marion, il y a Guillaume Meurice.
C'est moi. Période difficile en ce moment-là, pour tout le monde, pour les ministres déjà, parce que personne ne sait qui va rester. Benjamin Griveaux a déjà changé 3 fois de slip depuis ce matin. Personne ne sait qui va arriver non plus. Jean-Vincent Placé a déjà craqué 3 fois son slip depuis ce matin. Bref, il n'y a personne qui est vraiment tranquille, même nous, enfin dans la société civile, parce que tout le monde peut être nommé ministre. Hein. Je vous rappelle, le ministre de l'écologie, c'est un Vélib. Hein, quand même, je rigole, bien évidemment. On n'a jamais vu un Vélib sucer des lobbies. Bref, ça sent l'angoisse, quoi. C'est ça que je veux dire. On a besoin d'apaisement. Et ben, c'est peut-être pour maintenant, parce que je suis allé ce matin au salon Vive et Nature pour nous reconnecter tous avec les éléments, pour trouver des solutions pour aller mieux. Et j'ai une fois de plus rencontré plein de gens formidables, dont un jeune homme qui pratique quoi ?
La trichothérapie. Alors qu'est-ce que c'est que ça, la trichothérapie ?
C'est la coiffure énergétique en fait. On va aller stimuler le bulbe pileux par une technique de coupe. On va détoxiner les méridiens crâniens, donc on travaille sur les points d'acupuncture.
On va quoi, pardon ?
Détoxiner les méridiens crâniens, on travaille sur les points d'acupuncture. Ensuite, on va couper avec un tonton, avec un petit sabre japonais.
Vous coupez les cheveux avec un sabre japonais ?
Ouais, ça change.
Oui, bien sûr.
Ça change pas mal. Alors faites gaffe avec le sabre japonais quand vous choisissez le trichothérapeute. Hein, prenez pas un gars qui a le rhume parce qu'il a un sabre à la main, je vous rappelle. S'il est éternu, vous passez directement de la coupe mulet à la décapitation. De MacGyver à Daesh. Voilà, ce petit conseil que je vous donne. Alors, on trouve aussi d'autres choses formidables sur le salon. Par exemple, une paire de lunettes. Où les verres sont remplacés par du plastique noir très opaque avec des petits trous, un peu comme des lunettes burqa, quoi, on pourrait dire, dans le but d'exercer l'œil.
L'œil cherche à travers la grille jusqu'à ce qu'il trouve 2 trous, mais l'intérêt c'est que pour arriver à faire ça, il y a une gymnastique naturelle qui s'est faite au niveau des muscles de l'œil.
Ouais, c'est comme de la musculation. Voilà. C'est pas conseillé de conduire avec ces lunettes.
Hein. On peut le faire, je le fais.
Vous conduisez avec les lunettes comme ça ?
Ouais. Mais en général que sur l'autoroute. On a un champ d'anticipation qui est quand même plus grand.
Mais c'est pas dangereux ça quand même ?
Non, c'est pas dangereux parce qu'au bout d'un moment, votre cerveau va s'adapter. Ce n'est pas votre œil. C'est votre cerveau.
Bah, votre cerveau, il va s'adapter, mais il va aussi s'encastrer dans le 38 tonnes devant, j'ai l'impression. Hein, on est plus dans le mieux mourir que le mieux vivre. Ceci dit, c'est vrai qu'après, vous n'avez plus d'angoisse, hein, du tout, plus de douleur. Alors, comme angoisse, on le sait, il y a évidemment la peur de l'avenir. Mais au salon Vive et Nature, il y a également des tireurs de cartes.
C'est une nouvelle approche du tarot de Marseille, qui évidemment, on pourrait se poser la question, quel est le rapport avec le bien-être ?
C'est la question que je voulais vous poser. Voilà.
C'est le tarot de développement personnel, de guidance spirituelle. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais c'est magique ça. Quelle est la rationalité là-dedans ?
C'est vrai que vous prédisez l'avenir, c'est exactement la question que j'allais poser.
Voilà. Il va bluffer lui. Ah, je dis chouette, moi je suis toujours très sceptique, mais là il m'a scotché. Alors, il y a l'avenir aussi qui nous angoisse, bien sûr, on l'a dit, mais il y a pire que ça, il y a le passé qui nous hante. Alors, je ne parle pas seulement du passé proche, enfin, par exemple, voilà, Hippolyte, sa soirée VIP room d'hier. Même, évidemment, si quand vous êtes réveillé ce matin en porte-jartelle dans un caddie sur le parking d'Auchan, je comprends vos angoisses, mais il y a pire que ce passé-là, il y a nos vies antérieures. Hein, ça, on n'y pense pas à ça. Et bien, ça tombe bien, ce matin, il y avait une spécialiste de ça.
C'est lire la personne ou l'animal à l'aveugle, sans rien savoir de vous ou de l'animal à l'avance pour ne pas être influencé.
D'accord.
Par exemple, admettons pour l'humain, vous arrivez en séance, je ne sais rien sur vous, je vais lire 2 vies passées à vous, y compris les animaux, n'est-ce pas ?
Ça veut dire que les animaux aussi, ils ont des vies passées ?
À mon avis, oui. Donc,
Mais tous les animaux ?
Oui. Alors, pour moi, tous les animaux.
Mais par exemple, même une huître, elle a une vie passée ?
Moi, je pense.
Alors, ça, on ne savait pas bien. Hein. C'est vrai que nous, les huîtres, quand on les voit, elles sont toujours un petit peu stressées. Et nous, on se disait, elles savent qu'elles vont se faire bouffer, donc elles ne sont pas joyeuses. Mais en fait, non. C'est peut-être leur ancienne vie qui les travaille. Hein. Imagine, l'huître, avant, elle a été danseuse de cabaret. Elle se retrouve à être servie au Moulin Rouge. Ça lui remue un petit peu les souvenirs, quoi. Elle est crispée. Alors, évidemment, ce qui marche avec une huître, ça marche aussi avec un chien. Exemple, avec une collègue de la dame qui a eu affaire à un chien qui ne voulait pas obéir.
Quand elle a communiqué avec l'animal, il a montré qu'il avait été un chien de combat dans une vie passée et qu'il a été entraîné pour tuer son meilleur ami. Il a tué pour faire plaisir à son maître, mais depuis là, il s'est renfermé complètement. Et donc, il refuse tout.
On est sûr de ça ?
En tout cas, la dame, elle a dit, ça explique énormément de choses.
Ah, sans doute, hein, Juliette, vous avez un chien. Hein. Je rappelle, si ça se trouve, il a été sommelier dans une autre vie. Bah, c'est peut-être ça, mais ça vous influence, faites gaffe à ça. Hein, Marion aussi, Malcolm et Mochette, ça, c'est vos chiens.
Oui.
Bah, avant, c'est pareil, ils étaient peut-être dans le plus grand cabaret du monde, on ne sait pas, c'est pour ça que vous êtes triste quand Patrick, il
Mochette,
se fait virer.
Mochette, oui, c'est pas impossible.
Ah, bah, j'en suis sûr et certain.
Elle lève très bien la jambe.
Essayez de la sonder un petit peu. Alors, je ne voulais pas quitter cette dame sans un abus de bien social, hein, à savoir profiter de mon statut de chroniqueur pour une séance gratuite et un petit topo sur mes vies à moi, mes vies précédentes. Oui. Mais la dame n'a pas voulu parce qu'elle a eu peur.
Il y a des conséquences. Pour moi, il y a des conséquences. Parce que si j'ouvre une vie passée où vous étiez quelqu'un de rejeté, de pas de confiance en vous, vous allez vous connecter à ces énergies-là.
Ah oui, si vous me dites que j'étais un nazi, ça va m'embêter.
Vous savez, l'important, c'est de comprendre les blocages qu'on a eus.
Oui, je comprends bien. De toute façon, depuis que je sais que Laurent Delahousse était une brosse à cirage et Matteo Salvini une brosse à chiottes, c'est vrai que je comprends mieux la géopolitique. Donc, on va mieux, si on comprend mieux, on est reconnecté. Merci pour tout. Le salon Vive et Nature.
C'est intéressant aujourd'hui.
Ouais. Guillaume Meurice, merci. Sur France Inter avec Marion Gamme, avec Hippolyte Girardot, Juliette Arnaud qu'on va entendre dans un instant, Alex Vizorek. Abordons cette autre sujet, le roi du Maroc est en plein craquage. Depuis qu'il s'est séparé de la princesse Salma, Mohamed VI est devenu la star d'Instagram, posant en style un peu gangsta rap, hein, chemise léopard, aussi avec Maître Gims. Pendant que la presse, elle, reste verrouillée. D'ailleurs, la princesse Salma a disparu, mais il n'y a pas une ligne dans les journaux, on ne sait pas où elle est. Enfin, elle est sans doute sur une île déserte avec l'opposition marocaine. si on devait vous décrire le roi du Maroc aujourd'hui, parce qu'on est en radio, vous n'avez pas la photo, les photos. Allez, on dirait ceci. Marion, vous chantez Maître Gims. Gims. Ah, Gims. Gims. Maître Gims, en effet, qui pose avec Mohamed VI. Hein, voilà. Alors, Marion Gamme, on aborde ce sujet notamment parce que vous avez grandi à Casablanca.
Tout à fait.
De voir comme ça, alors c'est un long article paru dans l'Obs avec pas mal de photos qui sont assez, rigolotes. Hein,
je suis très très étonnée du poids du monsieur parce que son fils était quand même plus léger comme garçon.
Son père.
Son père. Mais là, alors, c'était.
Bah, disons qu'il a une vie. On dirait qu'il a une vie de patachon.
Il digère mal le couscous. Mais
en même temps, on serait roi du Maroc, on en profiterait un peu aussi, non? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de jalousie de notre part?
Oh non. Oh là là, il est énorme. Mon Dieu.
Bon, alors ça pour un roi à la rigueur.
Vous qui avez connu le Maroc, là, comme ça, Hassan II, on n'aurait pas imaginé une seconde. Quand même.
Bah, il était quand même beaucoup plus beau garçon et plus léger.
Et strict.
Alors, mais là,
ce serait sans doute en opposition à son père qui nous fait ce coup-là, non?
Mohamed VI. Pas possible. Je trouve qu'il va un peu loin dans le délire.
Marion Gamme, vous êtes née à Casablanca, vous avez vécu jusqu'à la vingtaine, 20 ans, 25
même
ans.
Plus tard que ça, Enfin, j'ai fait mes études au Maroc et puis mon début de vie au Maroc, les enfants, le mari, etc.
Alors, on lisait dans votre bio et on se posait des questions à ce sujet. C'est toujours douloureux, j'imagine, de se replonger dans cette période, mais vous avez notamment aussi quitté le Maroc parce que vous avez été victime d'un attentat sur le marché de Casa.
À cette époque-là, où il y avait énormément d'attentats et au marché central, effectivement, il y a eu des morts.
Vous pouvez nous rappeler le contexte parce que Juliette, qui a vécu notamment au Maroc...
Vous êtes Kazaoui, moi je suis Rebatia.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Ça veut dire quoi, Juliette?
Ça veut dire que Marion est de Casa et que moi, je suis de Rabat. C'est la capitale,
c'est Rabat.
C'est le pouvoir.
Voilà. Non, c'était une période extrêmement difficile où les Marocains voulaient leur indépendance et tout était bon pour nous faire partir, y compris les attentats. Alors, ou lâcher une bombe, sinon au marché central de Casa, toutes les femmes sont avec leur caddie, leur machin. Et ça a été extrêmement douloureux, effectivement.
Au point que vous n'êtes jamais retournée à Casablanca?
Non, j'ai pas envie d'y retourner du tout. Non. J'y suis retournée une fois, contrainte et forcée par le métier, puisque j'avais une tournée théâtrale et je suis passée par Casa, mais vraiment en baissant la tête, parce que c'était que des mauvais souvenirs qui me revenaient en tête. Quoi.
Et dans votre bulle de troupe de théâtre
Et j'ai essayé d'éviter toutes mes copines de Casa. Je veux dire, j'ai mis une croix sur Casablanca et le Mont-Saint-Alba, et j'ai été rattrapée par Scène de ménage, parce
la
que
série
tout
de
d'un
M6,
coup, mais tout d'un coup, il y a eu une espèce de folie collective. J'ai reçu un courrier incroyable de copines de Casa, qui se retrouvaient toutes dans les mêmes endroits. Hein. La Corse, le Sud,
du côté de Toulon, etc.
Marseille, la Côte d'Azur. Et voilà. Et j'ai reçu un courrier incroyable. Et j'ai retrouvé mes copines du lycée de Casa comme ça.
Ah, c'est vrai.
Et ça, c'était très, très émouvant quand même. Oui.
Et voilà. Vous êtes vraiment réunies, cas quand vous passez dans la région ou...
Non, pas du tout. Elles m'ont écrit, elles m'ont envoyé des photos, et les photos de classe et tout ça. J'ai fait un bond en arrière de Casablanca, ce qui était quand même très émouvant pour moi.
C'est une très belle histoire. Quelque chose à ajouter peut-être autour de cette
table? Deux, trois anecdotes, parce que vous avez ri toute la journée. Vous attendez.
J'ai beaucoup ri. Ben oui, alors déjà, ce qui est inquiétant, c'est qu'on ne sait pas où est la princesse.
Hein. Ça c'est pas drôle.
Et la presse marocaine fait. Non, ça c'est vraiment pas drôle. Alors attendez, qu'est-ce qui est drôle? Ah oui, alors toute la famille s'est retrouvée récemment à Bougival dans les Yvelines, là où les sœurs du roi ont une résidence pour fêter la séparation. Glisse un proche du palais. Ensuite, le roi Mohamed fait beaucoup de selfies, notamment avec des candidates de télé-réalité. Voilà. Alors, il est beaucoup sur Instagram, alors je vous conseille de le suivre. attendez, il est où sur Insta? Il a un social community manager, qui c'est un certain Sofiane El Bari, que l'Obs a essayé de contacter, mais qui n'ont pas réussi à... Vous pouvez quand même admirer toutes les belles photos de Mohamed VI. Dans la nouvelle communication du palais, l'image est substituée au vert, mais il semblerait qu'il soit très rarement au Maroc. Et il paraît que parfois il atterrit et puis il repart direct.
Il est cool.
Oui, c'est, voilà. Pendant que le pays crève la dalle.
Sa vie.
Juliette Arnaud.
Oui, alors, un autre palais, hein, parce que finalement, on va rester dans les palais. On va commencer. Je me suis posé la question de qu'est-ce que je sais de la Chine? Rien. Enfin, pas grand-chose. Enfin, si. Deux, trois trucs. Un, que la sieste là-bas est une institution. Alors, c'est peut-être un détail pour vous. Pour moi, ça veut dire beaucoup. Et une insulte pittoresque typiquement chinoise que je trouve parfaitement plaisante, qui est, deux points, ouvrez les guillemets, que ton enfant naisse avec des hémorroïdes. Alors, c'est pareil, c'est un détail pour vous. Moi, ça me fait crever de rire. Vous allez me dire, c'est beaucoup, mais c'est peu. Et quant à ce qui se passait avant la révolution de 1911, entre les murs de la cité interdite, alors là, que dalle de rechef. En même temps, c'est bien naturel. Elle s'appelle Cité interdite, pas Makassa et Soukassa. Viens, je fais une fête, tout le monde est invité. Il était même interdit au Pékin moyen d'y entrer. Jeu de mots. Donc il était interdit aux gens d'y rentrer, et mieux même, il était interdit de regarder dans la direction de la cité interdite. Et puis je tombe sur ce petit livre, pas cher du tout, qui s'appelle « Mémoire d'une dame de la cour dans la cité interdite ». Et là je pars loin, très loin, il y a très longtemps, là où rien de m'est familier, et croyez-moi, c'est extrêmement reposant comme activité. Si le titre... Mémoire d'une dame de la cour t'inspire des pensées de luxe, de lucre et de fornication. Passe ton chemin, lecteur voyeur, petit cochon. Ici, c'est pas les mémoires d'une geisha. La narratrice est d'une pudeur immense. Elle ne raconte que ce qu'elle sait, que ce qu'elle a vécu. Les rumeurs, elle s'en moque. Et puis son taf à cette dame de la cour, ça a l'air ridicule comme taf, c'était allumer les pipes de l'impératrice Cixi. C'était pas de coucher avec l'empereur. Il y avait des maîtresses pour ça. Il y en avait une centaine. Oui, fallait avoir la santé. Elle préparait le tabac, elle allumait les pipes et elle fut mariée contre son gré très peu de temps après à un eunuque. Voilà, une toute petite vie dans un immense palais secret. Le récit est si précis, si détaillé. Elle se souvient si bien que la lecture te donne la sensation d'être la fameuse petite souris qu'on a toujours rêvé d'être. Et que l'héroïne, Erong, elle-même est une petite souris. Elle dit « On nous dressait à marcher sans bouger la tête et à rire sans montrer les dents ». Ouais, c'est un sacerdoce terrible. À l'époque, il y avait carrément des petites filles qui étaient trop jolies. Elles étaient prêtes à se défigurer pour ne pas devenir une dame de la cour et pour pouvoir espérer avoir une vie normale. Ce livre existe grâce à la rencontre d'un jeune chinois érudit pendant la Deuxième Guerre mondiale, à l'époque où la Chine est envahie par le Japon, et de cette dame qui est devenue une vieille dame, qui est une vieille manchoue illettrée, dont les seuls modes d'expression étaient la parole et le geste. Une femme qui a été en fait l'histoire avec un grand H. Et elle se met à raconter à ce type, qui s'appelle donc Jin Yi, la vie dans la cité interdite, dans tous ces palais qui s'appellent le palais de l'harmonie suprême, le palais de l'harmonie préservée, le palais de l'harmonie parfaite, celui des excellences accumulées, ou encore le palais de la tranquillité terrestre, et où les étrangetés n'arrêtent pas de surgir, en tout cas pour nous lecteurs de 2018. Il y a cette impératrice, donc Cixi, qui ne voulait pas de parfum dans son palais. Elle ne voulait pas de parfum pour que ça sente bon, mais elle voulait que ça sente bon quand même, elle ne voulait pas d'encens. Alors les eunuques avaient eu l'idée d'installer de partout des corbeilles de fruits, et ils l'échangeaient sentait. Et en fait, le palais ne sentait que ça, l'odeur des fruits. Sixi, elle buvait du lait de femme plutôt que du lait de vache. Il y avait des rideaux en peau de souris pour l'hiver. Sixi, elle prenait un bain pour la partie haute de son corps et un bain pour la partie basse. Et c'était jamais en même temps. Et puis les pieds, bien sûr, où on apprend que de se laver les pieds et changer de chaussettes était exclusivement fait dans l'intimité. Et comment aussi les eunuques dressaient les poissons, les carpes, pour venir baiser la main de Sixi quand elle faisait des balades en barque. Sixi, par ailleurs, adore le théâtre. Alors, il y a théâtre au palais. Et la narratrice et toutes les hommes dames de la cour peuvent en profiter. Enfin, elles n'en profitent pas vraiment. Elles y assistent, certes, mais debout et parfaitement immobiles, quelque temps que cela dure, parfois des heures et des heures. Et c'est le seul moment où pointe la plainte chez la narratrice. Elle dit « J'ai souvent ressenti l'immense injustice qui sépare l'esclave de la maîtresse. Mais c'est tout. » La vieille dame est devenue femme de ménage après la Révolution. Elle est très seule et pourtant elle raconte la beauté. Elle ne semble ne vouloir se souvenir que de la beauté de la cité interdite. Elle dit « Certes, cette merveilleuse harmonie offrait une atmosphère unique. Aujourd'hui, l'eau filtre à travers les toits, les fleurs se fanent, le printemps a disparu. » Crève-cœur absolu. Merci, bisous, merci.
Merci Juliette. Wow. Et donc,
alors, ça s'appelle « Mémoire d'une dame de la cour dans la cité interdite ». L'auteur, c'est Jean Yi et c'est chez Piquier Poche. Très Tenez, bien. Marion.
Je regarde ça.
Et voilà. C'est pour vous, Marion.
C'est vrai ?
Bah oui, n'est-ce pas, Juliette ?
Vous partez avec les cadeaux ici. Hein.
Merci, Juliette Arnaud.
Quel beau cadeau,
on
merci.
Va aborder ce dernier sujet avec vous. Oui ? Vous vouliez dire ?
Non, c'est...
Bah sur les tournages.
Là, on part en voyage.
Entre deux ciels. Croyez-moi, vous allez voyager.
Ah oui, c'est formidable.
Et dans l'espace.
Parlons un peu du doublage au cinéma et dans les séries, parce que c'est un métier. Oui. Vous avez dit que parfois, c'est un métier alimentaire. Ça permet aussi de compléter le salaire. Jusqu'à quelques années, ça l'était. Mais maintenant, on demande à des guests de doubler les dessins animés, notamment. Cette semaine, il y a un long métrage d'animation qui sort avec les voix de Julien Doré et Amel Bent. Ça s'appelle Le Yeti et compagnie. La voix, ça touche une corde très sensible. C'est pour ça que de retrouver des grandes voix de doublage, ça nous fait des trucs, non ?
Mais c'est difficile, le doublage. Donc, Madame Amel Bent, Monsieur Julien Doré, bonne chance.
Ils sont en train d'ubériser votre métier.
Pourquoi pas ? Tout le monde a droit à sa petite part de bonheur. Mais c'est un métier difficile. Et pour arriver à rentrer dans un personnage et que vous oubliez le doublage, c'est magique comme sensation quand on est acteur.
Qu'est-ce que ça demande comme différence dans le travail, vous qui êtes comédienne de scène et de télé ?
Le travail a déjà été fait. Ouais. Donc il ne faut pas arriver en roulant les mécaniques et en se disant « vous allez voir ce que vous allez voir ». Non, il faut avoir ses propres pantoufles, mais respecter complètement à 100% ce qui a déjà été fait. Mmh. Et bien fait la plupart du temps. Voilà, donc il faut y aller avec beaucoup d'humilité, avec du métier, parce que c'est pas facile. Il faut enquiller les lignes, il faut enquiller les textes, c'est pas évident. Et il faut faire exactement ce qu'elle a fait. Mmh. Voilà.
Vous avez doublé beaucoup d'acteurs de cinéma aussi. Et dans les séries, vous êtes la mère de Brie dans Desperate Housewives.
Oui, il y a eu ça, mais il y a un feuilleton que j'ai doublé. Ça m'a fait merci. C'est un feuilleton qui a très très bien marché et qui s'appelait Malcolm.
Il y a quelqu'un qui vous, voilà, que vous
trop
étiez.
Bien.
Loïs.
Où je faisais une mère déjantée qui était toujours.
C'était vous la mère ?
Mais oui.
Est-ce qu'il y a un lien avec le nom de votre chien ?
Tout à fait.
Ah bah ouais,
tout à fait.
Évidemment.
Ah oui, un hommage à Malcolm.
Marion Gamme. Et tiens, une dernière petite question. Ouais. Vous regardez les films en VO ou en VF ?
En VO.
Quand même.
En VO, oui.
Tout juste pour
oui, mais en VO parce que les voix françaises, c'est toujours un peu à côté de la plaque.
Oui.
Enfin bon,
oui.
Je me comprends.
Non, mais je comprends.
C'est
mais
pas
après...
la même, c'est pas la même tonalité, je veux dire. Ouais. C'est pas le même son.
Non, bien sûr.
Le
mais
son authentique,
la VO,
c'est quand
ça
même...
peut aussi aider. Voilà, c'est
mais
bien que
le doublage,
ça existe.
C'est passionnant. Hein, c'est ouais. Quand même un truc passionnant.
Et voilà, on voulait rendre hommage aux doubleurs.
Il y en a une qui m'a fait souffrir affreusement et qui s'appelle Rita Moreno. C'est « I want to be in America ».
Ah ouais.
D'abord, Rita qui parlait à 150 à l'heure. Et je l'ai doublé dans des téléfilms, c'est mort. Allez, en français maintenant.
Eh bien, on a un sketch en français à vous proposer.
Oui, en fin d'émission, on propose un sketch à l'invité.
Un sketch ?
Je vous ai donné un rôle, à mon avis, vous en rêviez. La maman de Laurent Wauquiez. Parce qu'il fait beaucoup de bêtises, et on se demande d'où ça vient. Eh bien, on va se rendre chez les Wauquiez. Votre fils, c'est Guillaume, évidemment, qui physiquement lui ressemble déjà énormément. Évidemment, c'était obligatoirement lui. On s'y rend, il est en train, évidemment, de rédiger ses nouveaux SMS.
Et attends,
alors j'écris Pêchenard est un con ou alors Pêchenard connard.
L'orange. J'ai relavé la parka pour l'hiver, elle est toute propre.
Pêcheur connard, c'est mieux, non, Rimerich?
Lolo, tu m'écoutes.
Attends, maman, je suis occupée.
T'écris encore une lettre d'amour à cette Manuelle.
Sœur Emmanuelle, maman, sœur Emmanuelle, de 1, c'est juste une amie, ok?
C'est pas ce qu'elle dit. Hein.
Elle est pudique, c'est une très bonne amie. Et de 2, tu sais très bien qu'elle nous a quittés, ok?
Oui, mais tes amis, souvent, ils nous quittent et puis ils reviennent.
Mais arrête de me parler de Nicolas.
Alors montre-moi.
Attention, hein, c'est un SMS interne, c'est top secret, maman. Tiens, je te le donne.
Oups, je l'ai envoyé.
Quoi? Mais non! Mais à qui?
Frédéric Pechenard.
Oh là là, mais non, mais maman, mais comment je vais me rattraper maintenant là?
Comme d'habitude, tu fais une deuxième connerie directement et comme ça on oubliera la première.
Mais non, mais maman, qu'est-ce que tu tapotes sur le portable là?
Attends, attends, j'envoie un autre message pour m'excuser.
Mais non, non, maman, non!
Oh, trop tard, c'est parti. J'y vais.
Maman, là, tu me mets dans la merde, là.
Mais t'as pas besoin de moi pour ça, hein.
Bonjour.
Oh, Laurent, c'est ton ami, le petit intello chauve du Sud, là.
Éric Ciotti.
Salut, Laurent. Tu viens d'envoyer SMS, là.
Oui, je crois que je me suis trompée.
Il dit pardonnez Laurent, il était bourré comme une urne des Républicains.
Non, mais c'est n'importe quoi, là. Tout le monde sait bien qu'il n'y a eu aucune fraude. Ta victoire est indiscutable, Éric, bravo.
C'est sans doute François Fillon qui a compté les voix.
Bon, maman, tu lâches le portable, là, maintenant. Hein.
Tu crois que tu m'impressionnes avec ton charisme à la Angela Merkel? Tiens.
Non, mais à qui t'as envoyé ce SMS, là, encore?
C'est ton petit poulain, le bambin que tu soutiens chez les jeunes LR.
Ouais, j'ai tout de même 25 ans.
Et t'as les cheveux poivre et sel? Ah non, alors, fais pas comme si t'étais vieux. Hein.
Laurent, il paraît que tu viens d'envoyer ce SMS à la haute autorité des Républicains.
Non, mais maman, arrête de déconner avec ça. Donne-moi ce portable. Voilà, j'ai envoyé.
T'as envoyé quoi?
Oublié tout ce que je viens de faire, c'était du bullshit.
Ah bah merde.
Quoi?
Tu viens de l'envoyer à toute la région Conale, Rhône-Alpes.
Pour une fois, ils le trouveront peut-être sensé.
Marion Gamme, merveilleuse en comédie, Marion Gamme.
Mais comme ça, avec sa brupto, c'est pas facile.
Bravo. Vous avez relevé le gant avec brio. Merci beaucoup, Marion Gamme. Je rappelle qu'on peut vous voir au théâtre Edgar à Paris, dans C'est pourtant simple de Sophie Prachet. Voilà, au moins jusqu'au mois de janvier. Oui. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Marion Gamme, c'était un plaisir. Et d'ailleurs, on vous laisse le mot de la fin.
Il est très sympathique, vous me donnerez son téléphone.
Je suis sur un dos.